Dit zijn jouw favorieten.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro spécial de Code Source, le magazine qui décortique votre quotidien numérique. On l'utilise tous les jours, on scrolle, on clique, on stocke, mais comprenons-nous vraiment ce qui se passe derrière nos écrans. Entre surveillance publicitaire, câbles sous-marins et impact sur nos cerveaux, nous allons explorer aujourd'hui quatre facettes de notre monde digital. Nos reporters de seconde ont mené l'enquête, c'est parti pour 10 minutes d'immersion dans la tech. Si les cookies nous suivent, c'est aussi parce que nous passons un temps record devant nos terminaux. On parle souvent d'addiction de cerveau ramolli, mais qu'en dit vraiment la science? Comment les réseaux sociaux capturent-ils notre attention pour ne plus la lâcher? Place au dossier sur l'abus d'écran, et nous écoutons aujourd'hui Mathéo.
Donc un écran, est-ce que c'est un danger pour les enfants? À 2 ans, il y a 73% d'enfants qui regardent pas d'écran. À 3 ans, 56% regardent pas d'écran non plus. Et à 5 ans, les enfants regardent en moyenne une heure d'écran par jour. Et donc à 6 ans, les enfants ont regardé d'écran par exemple pendant 4 heures par jour, ce qui est énorme pour un enfant de 6 ans car ça peut affecter son développement cognitif et attentionnel et des troubles et même son sommeil, surtout s'il regarde les écrans avant une heure avant de se coucher. Et donc ça a un impact aussi sur l'économie et l'éducation. Donc la technologie permet de capturer l'attention plus longtemps et donc c'est pour ça qu'il faut avoir un cadre avec les écrans et ça doit être limité, accompagné par les parents pour éviter d'avoir des problèmes. Et donc de 0 à 2 ans, il faudrait éviter les écrans. De 2 ans à 5 ans, il faudrait pareil, limiter en mettant des temps. Et dans tout ce qui est par exemple de 6 à 12 ans, investir dans un contrôle parental qui est fait par plusieurs parents.
Katia.
Aujourd'hui, les écrans sont partout, téléphone, vidéo et tablettes. En moyenne, on y passe plusieurs heures par jour, mais derrière cette impression de liberté, il y a une réalité moins visible et ça s'appelle l'économie de l'attention qui est conçue pour capter notre cerveau. Alors, quelles sont les conséquences sur la santé et les comportements? Selon l'INSEE, les enfants et les ados passeraient plus de 3 à 6 heures par jour devant les écrans et les adultes 6 à 7 heures par jour. Ces chiffres augmentent avec l'âge et aussi souvent à cause du travail, puisque certaines personnes travaillent dans des bureaux ou tout simplement en télétravail. Le chercheur en neurosciences Michel Desmurger, cité dans Le Point et Uzbek Erika, dit que les écrans peuvent perturber l'attention, la mémoire et la concentration sur un long terme parce que le cerveau est trop stimulé par des vidéos courtes, et ce qui favorise la dopamine. Sur le plan de la santé, plusieurs études menées par Science et Vie montrent des risques sur le sommeil à cause des lumières bleues, la fatigue visuelle, les maux de tête, et il y aurait moins d'activité physique. Avant 3 ans, il ne faudrait pas vraiment montrer les écrans puisque ça pourrait impacter le langage et la gestion des émotions chez les plus jeunes. Certains comportements sociaux arrivent comme l'isolement, il y aurait moins d'échanges en vrai pour certaines personnes et certaines personnes deviendraient plus irritables. Mais dans l'article, il n'y a pas d'addiction aux écrans de Wendy Wood. Ce n'est pas vraiment l'écran le problème, c'est plus le temps que l'on y passe et l'usage que l'on en fait. Et les plateformes numériques fonctionnent selon une logique appelée l'économie de l'attention, c'est expliqué par Bruno Patino dans un documentaire. L'objectif des écrans serait de garder notre attention, ce qui génère de l'argent. Et à l'école, ça pourrait impacter tout l'apprentissage et les enfants auraient plus de mal à se concentrer. Mais il y a tout de même des usages positifs aux écrans. Comme l'éducation, c'est une façon d'apprendre autrement et d'avoir un accès au savoir infini. Et il y aurait aussi des progrès dans la médecine grâce aux écrans. Donc en fait, il suffirait juste de bien les utiliser. En conclusion, les écrans ne sont ni bons ni mauvais. Le problème, c'est l'abus et l'économie de l'attention. Et la solution, ce serait juste de gérer le temps et de varier les activités pour pouvoir garder un esprit critique.
Et toi, Lola, qu'est-ce que t'en penses?
Aujourd'hui, les écrans font partie intégrante de notre quotidien. Smartphone, ordinateur, tablette ou télévision. Mais derrière cette présence constante se cachent de réels enjeux pour notre cerveau, notre santé et nos comportements. Tout d'abord, quelques données statistiques selon l'INSEE. Les enfants de moins de 6 ans passent en moyenne près de 1 heure par jour devant un écran, parfois davantage dans certains milieux sociaux. Chez les adolescents, ce temps dépasse souvent 3 à 4 heures quotidiennes, notamment avec les réseaux sociaux et les jeux vidéo. Les adultes, eux, passent en moyenne plus de 5 heures par jour devant un écran, surtout dans les catégories socio-professionnelles liées au numérique et aux emplois de bureau. Mais quels sont les dangers de l'abus d'écran? Sur le cerveau, les chercheurs comme Michel Desmarguet expliquent que la surexposition aux écrans peut réduire la concentration, la mémoire et la capacité d'apprentissage. Le scroll infini et les notifications stimulent en permanence la dopamine, ce qui rend notre cerveau plus dépendant à la gratification immédiate. D'après Epsilon H5 numéro 3 et France 5 écran total. Sur la santé, un temps d'écran excessif y favorise la sédentarité, les troubles du sommeil, la fatigue visuelle et parfois l'anxiété. Chez les jeunes enfants, une exposition trop précoce peut ralentir le développement du langage. D'après Science et Vie et naître-et-grandir.com. Sur les comportements sociaux, les écrans peuvent provoquer un isolement, une diminution des échanges familiaux et une exposition accrue à des contenus violents, notamment avant 3 ans, d'après Science et Vie. Cependant, comme le rappelle Wendy Wood, il ne s'agit pas toujours d'addiction, mais plutôt de mauvaises habitudes numériques, d'après Epsilon numéro 1. Les écrans ont aussi un impact économique et éducatif. Nous vivons dans une économie de l'attention, décrite par Bruno Patino, où les plateformes cherchent à capter notre temps pour générer des profits publicitaires, d'après Infomounier.fr et Canopé. À l'école, un usage mal encadré peut nuire à l'apprentissage, mais un usage réfléchi peut aussi être bénéfique, car les écrans ont également des effets positifs, lorsqu'ils sont bien utilisés. Ils facilitent l'accès au savoir, à l'éducation et à l'information. Ils permettent aussi des avantages en économie, dans les transports et même pour l'écologie grâce au télétravail et à la dématérialisation. En conclusion, les écrans ne sont pas mauvais en soi. Le véritable enjeu est d'apprendre à mieux les gérer pour protéger notre santé, notre cerveau et nos relations sociales.
Impressionnant de savoir que des algorithmes sont spécifiquement conçus pour pirater notre dopamine. Ça donne envie de poser son téléphone quelques minutes, n'est-ce pas? Justement, ce réseau physique nous permet de stocker des tonnes de données, de ce qu'on appelle le cloud. Mais le cloud, c'est où? C'est quoi? Et surtout, quel est le prix écologique de nos milliers de selfies stockés à l'autre bout du monde? Pour finir, envolons-nous vers la data center. Andrea.
Bonjour. Aujourd'hui, beaucoup de données sont stockées dans le cloud ou le nuage, qui est un réseau mondial pour stocker vidéos, photos, mails ou documents. Le cloud a changé aussi nos usages personnels et pro. Le cloud computing, donc stocker des données, utiliser des services informatiques à distance via Internet. Et le data center, c'est un grand bâtiment où il y en a plusieurs, comme des milliers dans le monde, rempli de serveurs et qui fonctionne 24 heures sur 24, mais qui a besoin de beaucoup d'électricité. Donc plusieurs milliers de data centers dans le monde, en Amérique du Nord, Europe, Asie, et les propriétaires sont Amazon, Google et Microsoft. La consommation d'électricité pour les data centers sont d'environ à 1 à 2% d'électricité mondiale. L'utilisation du cloud ou du nuage, comme on aime bien dire, donc stockage photo, streaming, vidéo, musique, documents partagés, et pour l'utilisation pro des sites web, stockage de données, travail collaboratif, analyse de données. Les utilisations qui sont en augmentation depuis quelques années, donc les inconvénients, c'est la pollution, la centralisation des données, les sécurités, les pannes, les cyberattaques. Donc c'est-à-dire qu'on est beaucoup dépendant aussi du cloud. Et les avantages, c'est que nos données sont accessibles partout, tout le temps dans le monde, peu importe où on est. Et c'est une meilleure sécurité, ça réduit les coûts des entreprises. Et les data centers sont de plus en plus efficaces en utilisant des énergies renouvelables, mais qui polluent ainsi. Pour conclure, c'est très utile, mais ça pose beaucoup d'enjeux économiques, politiques et environnementaux.
À toi, Justine.
Quand on parle des données dans les nuages, on ne sait pas vraiment où ils vont. Et du coup, je vais vous expliquer ça. Le cloud, c'est ce qui permet d'utiliser des serveurs informatiques dans des data centers à distance et qui sont connectés à Internet. Ils peuvent gérer, stocker et traiter nos données. Donc nos données ne sont pas sur nos ordinateurs, mais ils sont à distance dans des serveurs. Les rôles des data centers, on peut aussi les appeler les centres de données. C'est en fait un lieu qui regroupe des équipements essentiels d'un système d'information. Elles facilitent la sécurité, la gestion et la maintenance de nos données. Donc s'il n'y a pas de data center, il n'y a pas de cloud. Les data centers ont beaucoup augmenté depuis des années grâce au numérique et au streaming. Dans le monde, il y en a environ 12 000. Par exemple, aux États-Unis, il y en a dans les 2 000. En France, dans les 300 et en Chine, 500. D'après Census Bureau, les États-Unis en détiennent le plus. Ils investissent plus de 50 millions de dollars. Voilà. Leurs principaux propriétés, c'est des grandes entreprises privées comme Amazon, Google, Meta. Il y en a encore plein d'autres, hein, on pourrait les citer pendant longtemps. Les data centers, ça consomme beaucoup d'énergie. Ils représentent une part importante une part importante pour la pollution numérique. Ils doivent être refroidis en permanence tout le temps. Le cloud permet de stocker des fichiers des utilisateurs, des applications en ligne, de regarder des vidéos en streaming ou encore de travailler en télétravail chez nous. Pour les entreprises, le cloud permet de réduire les coûts. Ils utilisent pour stocker les données des clients, utiliser des logiciels en ligne et permet de gérer les serveurs rapides. Cependant, y a des inconvénients. Ils consomment beaucoup d'énergie, d'électricité. Ils émettent beaucoup de CO2 et participent à une partie importante du réchauffement climatique. La centralisation des données peut aussi poser des problèmes de sécurité et ils peuvent être perdus à un moment. Mais le data center est beaucoup protégé avec des systèmes anti-incendie, anti-intrusion, ce qui permet d'avoir une bonne sécurité pour nos données. Le cloud permet d'avoir une meilleure sécurité sur les ordinateurs personnels. Et les données sont accessibles tout le temps, 24 heures sur 24, dans le monde. Et aussi, on peut appeler l'effet rebond. C'est quand les utilisateurs utilisent tellement une technologie que la consommation d'énergie peut augmenter, même si c'est d'une très bonne qualité, elle est efficace. Voilà.
Ok, et maintenant, c'est à moi de vous présenter le cloud. Donc, d'après la Tribune, le numérique contribue à 3 à 4% au réchauffement climatique, mais en avant le cloud qui permettrait d'économiser 80% d'économie d'énergie et 96% de réduction d'émissions de carbone. Un data center, c'est quoi ? C'est une installation physique centralisée qui stocke les applications et données critiques des entreprises. D'après Le Monde, les services numériques représentent 10% la consommation électrique nationale et 2,5% de l'empreinte carbone, avec 20 millions de tonnes de déchets. D'après Wikipédia, le cloud computing repose sur plusieurs modèles de services, LAS, PaaS et SaaS, ainsi que différents types de cloud. La salle des serveurs, c'est plein de rangées de serveurs connectés entre eux et qui envoient plein d'informations, et un serveur, c'est un super ordinateur. D'après Grint, C'est une analyse qui mesure l'empreinte environnementale des énergies. Elle s'appuie sur une analyse du cycle sur cycle de vie. En 2019, le numérique représentait 34 millions d'équipements pour 4,1 millions d'utilisateurs, soit 223 millions de tonnes, soit un impact de 4%. Le cloud, ça propose des services de stockage et de sauvegarde de données à distance. Des ressources sont fournies à la demande. Merci. On comprend mieux maintenant que le cloud, ce sont surtout des énormes usines à données qui chauffent beaucoup et qu'il est temps de faire un petit ménage de printemps dans nos fichiers. Voilà, notre émission touche à sa fin. Que retenir de ces quatre enquêtes ? Tout d'abord, que rien n'est gratuit. Si nous ne payons pas pour certains services, nos données et notre attention sont la monnaie d'échange. Merci les cookies et l'économie de l'attention. Ensuite, que le numérique a un poids bien réel. Ce n'est pas de la magie, c'est une infrastructure physique fragile et gourmande en énergie qui demande une gestion responsable de notre part. Enfin, l'essentiel est de rester maître de ses outils, savoir supprimer ses traceurs, limiter son temps d'écran et trier des données dans le cloud. C'est devenir un citoyen numérique éclairé. Merci aux élèves de seconde 2 pour le travail de recherche. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'intelligence artificielle. D'ici là, restez connectés, mais restez prudents.